Sandrine Willems, vous publiez aux Impressions Nouvelles un roman intitulé « Eros en son absence ». Alors, il y a des livres qui sont des livres bibliothèques, il y a d'autres livres qui sont des livres où on peut explorer d'autres espaces comme la musique ou la poésie. C'est le cas de votre livre dans lequel vous explorez les liens qui existent entre la mystique, la musique et l'érotisme. Alors, comment vous est venue cette inspiration particulière ?
Mais déjà, le point commun entre ces trois domaines, c'est l'indicible. Enfin, le fait que ça touche à la limite, en tout cas, du langage. Et que donc, il y a un défi d'écrire là-dessus. Ce qui a fait que j'ai accepté cette proposition, puisqu'en fait c'est l'éditeur qui m'a demandé d'écrire un livre érotique, et j'ai dit oui tout de suite, mais en ne voulant pas réfléchir. Et bon, les questions sont venues évidemment après, vu que je trouvais ça extrêmement difficile de parler de ça. Donc moi, en termes de livres érotiques, mais très particuliers, j'avais lu que Sade Bataille, qui sont d'ailleurs très présents dans le livre, qui sont un peu des maîtres, puisque j'ai fait une thèse de doctorat en philo sur Bataille, donc c'était bien en toile de fond. Et puis donc, pour me plonger dans le genre, je me suis mise à lire des textes érotiques plus classiques, disons. Plus. Et je me suis globalement très ennuyée, parce que je voyais des choses qui était descriptive, qui prenait les choses de l'extérieur. Et j'ai voulu prendre le contre-pied absolu de ça, c'est-à-dire quelque chose qui soit presque psychanalytique, mais psychanalyse de la chair. Et donc, là encore, on touche à la mystique, puisque Lacan a très bien parlé de ce lien entre l'érotisme qui considère comme féminin et la mystique, où il y a une espèce de vide qui comble et que j'oppose peut-être caricaturalement à l'érotisme qui serait plus masculin ou ce serait du côté du plein. Voilà. Oui, c'est tout à fait un pamphlet où c'est peut-être de perception du corps, pas s'oppose, mais en tout cas se rencontre, essaye de se rencontrer, où j'essaye d'évoquer un érotisme du corps entier, comme je le dis, et où les cinq sens sont très présents. C'est pas juste le génital. On retrouve ce que Freud appelait le polymorphisme, le pervers polymorphe de l'enfant, où, qui jouit par tous ses pores, en fait, et par les odeurs, par les infimes sensations de toucher, par l'ouïe, puisque là on revient à la musique. En fait, c'est vrai que il y a un aspect simplement autobiographique. C'est vrai que j'ai eu une relation avec un musicien et qu'après coup, il y a une réflexion un peu là-dessus où je me disais, mais qu'est-ce que ce serait un art du toucher, hein, terme musical quand même, qui serait de bout en bout musical. Et c'est là que Verlaine, la référence à Verlaine est venue, parce que dans sa poésie, c'est ce qu'il cherche à faire aussi. Et sans doute que dans l'écriture, je cherche aussi une forme d'érotisme, ou en tout cas d'hypersensualité et de musicalité. Donc les trois domaines, ils sont déjà là dans la patte de l'écriture.
Alors, il y a littérature, il y a musique, le roman, parce que c'est un roman dont il faut quand même qu'on évoque un peu les personnages. La narratrice rencontre par échange de courrier et entreprend une première approche amoureuse d'un correspondant par les mots. Donc les mots lui évoquent une espèce de grande sensation d'un amour absolu qui pourrait naître et qui pourrait aborder tous les sens, comme vous le dites. Donc les mots au départ, ces échanges d'emails avec un musicien. Et elle espère, et là vous avez une description de la caresse musicale qui correspond à la caresse espérée érotique, qui est très 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 belle, avec ce que vous disiez, le toucher, tous les termes techniques de la musique. Elle espère énormément d'une relation qui finalement, à partir du moment où elle se concrétise, devient quelque chose de désolant, de décevant pour elle, parce qu'elle avait tellement espéré.
Oui, alors là, quand même, je ne veux pas du tout dire que les mots sont trompeurs. je ne veux pas, parce que ça, bon, c'est un peu le cliché, oui, on se fait des histoires idéalisées par les mots, et puis voilà, la réalité brute nous tombe dessus. Justement, ce qui se loupe dans cette rencontre, c'est l'intrication de la réalité des mots, et qui a lieu après dans la rencontre avec cette femme, puisque, bon, quand même...
La narratrice ensuite rencontre, a une relation amoureuse avec une femme.
Voilà, et où là, cette espèce de fusion entre la poésie au sens langagier, la poésie décor de la réalité, ça a lieu. Donc, c'est une question de bout en bout sur les limites du langage et en même temps de sa nécessité. Et bon, là, il y a quelque chose de très personnel aussi, sa nécessité pour moi, parce que au fil des relations, je me rends compte que le langage a une place énorme et qu'il n'a pas pour tout le monde. Et donc, c'est aussi une réflexion sur les conditions d'une rencontre. Qu'est-ce qui fait qu'on peut s'entendre, se comprendre avec quelqu'un ? Il faut un langage commun. Et bon, un musicien, sans doute, éprouve ça. Moi, c'est vrai que c'est une question que je me suis beaucoup posée. C'est quoi d'avoir dans la tête en permanence des musiques ? Et c'est quoi cet incommunicable ? Comme on peut se poser cette question pour un mathématicien, enfin quelqu'un qui est dans un langage autre. Et donc, comment il fait ? À la limite, c'est plus facile de parler, à la limite.
Votre roman débute par un échange épistolaire, donc par des mots. Il se termine par une interrogation sur la musique. Alors, est-ce que, puisque votre roman est inscrit, je dirais, dans la lignée de l'art poétique de Verlaine, est-ce que vous n'avez pas finalement encadré votre roman des deux phrases, des deux vers qui l'un commence et l'autre termine l'art poétique? Le premier vers de l'art poétique, c'est de la musique avant toute chose, et le dernier, c'est et tout le reste est littérature. Vous avez commencé, vous, par la littérature, pour terminer par la musique?
J'y avais pas pensé comme ça, mais c'est en filigrane, c'est tout à fait juste. C'est vrai que j'ai beau dire, mais au bout du compte, il y a, à mon avis, quand même des choses que la musique peut dire que les mots n'atteignent pas. Je crois qu'il y a quelque chose de peut-être plus archaïque dans la musique. Voilà, d'une sensualité plus... Peut-être parce que justement, moi, je parle. Sans doute qu'un musicien ne dirait pas ça. Mais comme pour moi, c'est une espèce d'inconnu, donc d'absolu plus intact, au sens précis du mot. Il y a une magie, sans doute, qui vient de mon ignorance. Ça reste l'inconscient.
Est-ce que on pourrait dire que la musique est ce qui, paradoxalement, peut dire l'indicible, alors que l'écriture, la littérature, le travail de l'écrivain est de sans arrêt essayer de trouver des mots dont la combinaison se rapprocherait de ce qu'est l'émotion musicale?
Pour moi, oui. Pour moi, oui. Je ne pense pas que ce soit universel, mais c'est vrai que... Moi, je tends à ça, je cherche ça. C'est... Peut-être aussi, c'est une évolution, c'est que le récit, au sens de raconter une histoire, m'intéresse de moins en moins. Et que je crois que je cherche plus quelque chose qui soit de l'ordre du chant, du lyrisme, de l'émotion, mais qui est liée à une introspection. Je suis aussi psychologue, par ailleurs, et bon, d'orientation très psychanalytique. Donc, ça joue aussi, sans doute. Et donc, cette espèce de dentelle de sentiments, c'est ça qui m'intéresse. Donc, ce n'est pas de la poésie au sens classique, dans la mesure où les personnages sont hyper importants pour moi, les personnages, les émotions, mais ça a à voir avec l'oratorio, enfin, ce que je cherche, en tout cas.
Moi, j'ai eu le sentiment que votre roman, en le lisant, était bien sûr un roman érotique, mais essentiellement un roman poétique. Et en vous écoutant, je suis en train de me dire que ce que vous auriez voulu écrire, c'est un roman musical.
Bon, je crois qu'il y a aussi une recherche là, dans le contenu par rapport à ce genre qu'est le livre érotique, de l'associer complètement à quelque chose de sentimental. Parce que les romans, donc là, érotiques classiques que je lis, ça me frappait comme quelque part ils étaient froids. Bon, ce qui devient une revendication chez Sade, mais là, ce n'était pas nécessairement revendiqué. Il y a une mécanique des corps. Hein, et moi, je parle justement de quelque chose, oui, de très fort dans le désir, dans la rencontre charnelle, mais qui soit aussi éminemment sentimental, éminemment de l'amour. Donc il y a une réflexion sur les limites dans tous les sens. C'est, je veux dire, la connexion entre le désir et le sentiment, la connexion entre la chair et l'esprit, parce que c'est ça aussi que je conteste, cette espèce de dualisme parfois... parfois présent, ou d'un côté, ben, on parle, c'est purement spirituel, soi-disant, et d'un autre côté, il y a les corps. Et justement, moi, je pense que c'est tout à fait lié, hein, le verbe qui se fait chair, et qui se fait chair sans doute par l'affect, par le sentiment. Donc c'est cette troisième voie qui fait que les deux autres n'en sont plus deux.
Vous disiez que vous êtes psychologue et avec une pratique plutôt psychanalytique. En quoi est-ce que la psychanalyse, qui se fonde donc sur la capacité de mettre des mots sur la complexité de l'être qui est en consultation, en quoi est-ce que cette expérience et cette pratique de psychanalyste modifie votre écriture ?
Elle ne modifie pas. Je veux dire, oui, bon, j'ai rencontré des psys depuis très jeune, donc... ça a toujours été là. Je suis devenue psychologue au bout de ce parcours, enfin, à un moment où j'ai vraiment voulu pratiquer moi, mais ce n'est pas quelque chose qui m'a influencée, c'est plutôt le contraire. C'est parce que moi, j'étais comme ça, avec ce goût de l'introspection, que j'ai affiné ça, sans doute. Et c'est devenu plus explicite, mais voilà, c'était déjà bien là. C'est sans doute de plus en plus fort. Mais c'est bon, la psychanalyse qui m'intéresse, c'est pas Freud, c'est pas Lacan. Justement, parce que je pense que Lacan, bon, là je dis quelque chose qui va peut-être choquer les gens, mais je pense qu'il sépare parfois le langage du reste. Et moi, la psychanalyse qui me passionne, c'est la psychanalyse de l'affect, des tripes aussi, comme l'a sans doute incarné Ferenczi. Voilà, des gens qui sont dans le pathos, ou bien Searle, qui écrit l'effort pour rendre l'autre fou, enfin, des gens qui sont dans la pâte aussi, Winnicott, enfin, qui ne craignent pas ça. Et donc, ce n'est pas une psychanalyse qui mettrait des mots sur, hein, c'est plutôt une psychanalyse qui chercherait à connecter l'archaïque au plus évolué. D'ailleurs, bon, j'ai une passion qui date pas d'hier pour les animaux et je voudrais arriver à travailler en psycho avec des animaux, comme j'ai beaucoup écrit sur les animaux. Je veux dire, ça me semble très proche, ça d'ailleurs, écrire sur l'érotisme ou sur les animaux, ça touche aux mêmes choses, je crois.
Vous évoquez l'archaïque. Est-ce que le troisième élément, disons le troisième pilier de votre roman, si on considère que la poésie d'une part, la musique de l'autre, la troisième serait la mystique, est-ce que la mystique appartient à ce substrat archaïque qui est chez chacun d'entre nous, qui est la spiritualité, qui est ce besoin de spiritualité ?
Je crois, parce qu'en tout cas, la mystique à laquelle je me réfère, c'est quelque chose... qui a à voir avec une origine, enfin bon, ça sans doute toujours, mais dans le christianisme, qui est quand même la tradition à laquelle je fais référence, qui est pas une tradition dans laquelle je suis née, parce que je n'étais pas dans une famille chrétienne, mais moi, j'ai beaucoup travaillé autour de ça. J'ai beaucoup lu, j'ai travaillé sur Bernard de Clairvaux, qui était déjà quelqu'un... au croisement de tout ça, puisqu'il est à la fois dans la poésie, dans le cantique des cantiques, donc une poésie érotique aussi. Et oui, donc cette mystique qui m'intéresse a à voir avec la recherche d'une divine origine. On est toujours travaillé par le mythe du paradis perdu. Donc là, les animaux, donc là, une sensualité autre, le corps pur, hein, dont Artaud a fait à la fois l'éloge et était... Oui, c'est vrai qu'Artaud, par exemple, avec sa cruauté, c'est quelque chose dont je me sens très proche.
les animaux et la psychologie. Est-ce que vous pourriez un peu développer en quoi le travail de psychologie peut se rapprocher de cette curiosité vers l'animalité? Parce que les livres que vous avez consacrés aux animaux sont des livres sur l'association mythologique entre certains animaux et l'humain.
Oui, pas que mythologique, hein, c'est des rencontres très fortes qui ont eu lieu entre un humain, un animal chaque fois. Donc c'est des histoires d'amour, quel que soit cet amour. Et là, dans le travail que je chercherai à faire, c'est une recherche autour de l'accrochage. C'est quelqu'un qui a très bien parlé de ça, c'est Jacques Scott, hein, qui a été un des piliers de la psycho à Louvain. C'est cette dimension de contact. Et je pense que le contact qu'on peut avoir avec un animal, c'est quelque chose qui nous met en connexion avec une part de nous autre. Je ne crois pas du tout à ce discours qu'on entend parfois où l'animal est un substitut d'humain. Non, ça remplace pas un humain, mais un humain ne remplace pas un animal. Il y a quelque chose d'autre, c'est une autre strate, je crois. Et bon, là, en particulier, moi, je travaille avec des toxicomanes, des alcooliques, et je vois un lien possible entre l'addiction, au sens où elle peut devenir pathologique, et l'accrochage à un animal, où ça peut aussi être une voie thérapeutique, parce qu'on s'accroche tous à des choses qui nous font vivre, à des étayages quels qu'ils soient, que ce soit quelqu'un, que ce soit l'écriture, un art autre, on a des repères comme ça auxquels on s'accroche, et un animal peut en être un.
Mais concrètement, vous avez un patient, disons, alcoolique ou drogué. Comment procédez-vous pour l'accrocher à cet animal ou comme vous pouvez être accroché à la littérature, par exemple, à l'écriture?
Mais
Comment...
bon, là, j'en suis à m'intéresser en particulier à la relation qu'il y a entre certains toxicomanes, SDF, alcooliques, à leur animal. Aujourd'hui, j'en suis là. Mais le projet que j'ai, c'est de créer un lieu de soins avec des animaux, en particulier des chiens et des ânes, parce que bon, c'est des animaux très affectifs. Mais le projet, c'est de développer ça. Mais bon, ça a à voir avec ma recherche aussi, avec une vie plus proche de la nature, et donc où tout ce qui m'intéresse serait présent, parce que l'écriture évidemment serait là aussi, l'écriture qui peut avoir quelque chose de thérapeutique, et même dans ce que je fais aujourd'hui, je veux dire, quand quelqu'un vient me voir, il y a un aspect de reconstruction de la biographie qui est très présent, donc très proche de mon travail d'écriture en fait. Je crois que tout ça communique très fort.
Revenons, si vous voulez bien, quelques instants, même si on s'éloigne un peu de votre livre, on s'approche peut-être aussi de l'auteur, ce qui est une manière aussi d'aborder le livre. Le SDF et son animal et son chien, ce sont des silhouettes que l'on croise souvent dans les rues. Et c'est vrai qu'il y a une sorte de lien particulier que l'on devine entre le SDF et l'animal. Comment est-ce que vous le percevez dans votre travail avec eux?
Ça devient le lien unique. L'amour fou, et je pense que c'est aussi ça qui m'intéresse là-dedans, c'est cet aspect passionnel. Là, de toute façon, je parlais d'addiction, d'accrochage, dans la passion, c'est de ça qu'il s'agit, et c'est quand même beaucoup de ça que j'ai parlé là-dessus, que j'ai écrit, qui est ici dans ce livre aussi, hein, d'ailleurs, c'est des personnages qui sont tous dans la passion, donc dévorés aussi par la passion. Et quand quelqu'un peut, à un moment, se sortir de la société complètement, comme peut le faire quelqu'un qui se marginalise au point de plus rien avoir. Là aussi, je pense qu'il y a une quête mystique. Enfin, et parfois, je ne sais pas, je fais pas que le penser, c'est dit. Je veux dire, j'ai entendu des gens qui parlaient d'ordalie, de choses comme ça, dans ces processus-là où il y a une dépossession. Il y a une quête, on parlait du vide, il y a une quête du vide, de plus avoir de travail, plus avoir de maison, plus avoir de relations, plus rien, être au bout, il y a une recherche, il y a une recherche. Je crois qu'il ne faut pas du tout banaliser ça, juste comme un accroc social, enfin c'est pas ça, il cherche à perdre. Et le chien là-dedans devient parfois le seul fidèle, le seul qui tient, le seul qui n'abandonne pas, parce que l'abandon, c'est bien là aussi, dans ces parcours-là.
Et l'autre animal que vous avez cité, l'âne. quelle est sa richesse, quelle est... parce que c'est aussi un personnage qui finalement appartient à une sorte de mythologie, de toute antiquité. Mmh. L'image de l'Inde existe en nous.
Bon, sans doute que moi j'y suis allée aussi pétrie de ces images-là, hein, de l'âne, la naisse sur laquelle était le Christ, voilà, le fameux dimanche des Rameaux dont vient de sortir. Oui, l'image de l'âne innocent, et puis sur lequel on frappe. Bon. Et en même temps, donc, je suis allée à la rencontre des vrais ânes à partir de là, et j'ai découvert un animal extrêmement attachant, parce que très affectif, qui fonctionne tout à fait différemment du cheval, beaucoup plus intelligent, hein, ça les gens qui ont les deux peuvent en témoigner, et qui ne fonctionne pas dans un rapport de dominance. Il n'a pas de maître, l'âne, parce qu'il n'obéit pas. Il fera une chose s'il a envie de le faire parce qu'il est attaché à une personne. Puis les ânes, c'est pas un fonctionnement hiérarchique dans la nature, donc c'est des animaux avec qui on peut avoir aussi une relation très forte. C'est ça que je cherche, évidemment. C'est toujours ça qui m'intéresse, les relations.